Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À moins d'un mois des canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II, les voix des papes depuis Pie XI sont mises à la disposition du grand public. 8000 bandes sonores des archives pontificales de Radio Vatican ont été numérisées. Quant au centre de télévision du Vatican, il lance une initiative inédite qui devrait permettre à des millions de personnes de suivre les canonisations, presque comme s'ils étaient à Rome. En attendant, le pape en exercice n'abandonne pas le chantier des réformes. Il a réuni ce mardi tous les chefs de la curie romaine. Dans ce magazine, nous évoquerons également les conséquences dramatiques de la crise, surtout en Europe. La crise prouve bien que le système actuel est défaillant, a souligné le président du Conseil pontifical Justice et Paix. Les jeunes économistes doivent comprendre que leur vocation inclut la nécessité de nourrir les affamés et de déraciner la pauvreté. La voix des papes de Pie XI à François est désormais disponible sous forme numérique. Ce chantier colossal a été présenté ce mardi à la presse. Le grand public aura plus facilement accès aux prises de parole de 8 papes qui ont, chacun à leur manière, marqué l'histoire. Depuis sa création en 1931 sous le pontificat de Pie XI, l'une des missions de Radio Vatican est de préserver ce patrimoine sonore unique en s'adaptant aux nouvelles technologies. Ce travail de numérisation permet de préserver les bandes sonores qui ont été enregistrées sur divers supports, notamment des rubans magnétiques qui risquaient de s'abîmer. Hélène Détombe. De la voix de Pie XI, le 2 février 1931, à celle du pape François lors de son premier Angélus, le 17 mars 2013, c'est un véritable voyage dans le temps qui a été proposé ce mardi aux journalistes dans les locaux de Radio Vatican. Des moments clés illustrant les pontificats des 8 papes qui se sont succédés ces 80 dernières années avaient été soigneusement sélectionnés. Parmi eux, le fameux discours à la lune de Jean XXIII à la foule place Saint-Pierre au soir de l'ouverture du Concile Vatican II en octobre 1962. Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum. Les paroles emplies d'émotion de Paul VI pour le président du Conseil italien Aldo Moro, enlevé par les Brigades Rouges en 1978.
Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia.
Mais aussi l'intervention historique d'août 1939 de Pie XII, qui à la veille de la Seconde Guerre mondiale lançait un vibrant appel en faveur de la paix.
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra.
Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre. Ces paroles, comme toutes les autres, ont donc été numérisées et seront disponibles en ligne. Il suffira aux internautes de préciser leurs recherches à travers des dates, des lieux ou un pontificat. Des archives sonores qui, selon le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, constituent un véritable trésor.
Les archives des Radios Vatican sont la vraie richesse, le trésor des Radios Vatican, car il nous donne la possibilité d'écouter de nouveau la voix vivante et entendre la personnalité de pape qui parlait au peuple ou qui tenait des homilies dans les cérémonies liturgiques. Alors c'est un sens de présence très forte et des compréhensions profondes de la personnalité, de la spiritualité de pape que nous pouvons avoir à travers la voix.
Des archives qui réservent encore de nombreuses surprises. Certains documents inédits, comme les échanges du pape Jean-Paul II lors des repas, seront ainsi mis en ligne dans les prochains mois.
Il y a des enregistrements, des discours tenus d'occasions qui n'étaient pas publiques, mais qui n'étaient pas particulièrement secrètes ou réservées, et qui nous avons enregistrés, qui nous pouvons maintenant revisiter, surtout pour le pape Jean-Paul II. Qui faisait des merveilleux courts discours à la fin des repas avec des épiscopats, par exemple, en occasion de voyages. Je me rappelle plusieurs de ces discours. Et alors, maintenant, on travaille pour le revisiter et pouvoir publier des contributions qui n'étaient pas connues ou qui n'étaient pas publiées. Et c'est une façon, je pense, importante, intelligente d'utiliser la richesse d'un archive.
Une richesse qui n'est pas seulement de l'ordre du souvenir, mais qui représente bien plus que cela. C'est tout un patrimoine, à la fois historique et spirituel, que Radio Vatican entend offrir au public, se faisant une fois de plus l'écho de la voix des papes.
La diffusion de ce patrimoine sonore unique s'inscrit dans la préparation des canonisations du 27 avril. Et aux côtés du père Lombardi, ce mardi, lors de cette présentation, se trouvaient des personnes qui ont bien connu Jean XXIII et Jean-Paul II. Parmi elles, Guido Busso, majordome de Jean XXIII, puis doyen d'antichambre de Jean-Paul II. L'occasion d'évoquer de nombreux souvenirs très personnels. Guido Busso a notamment réjoui l'Assemblée en narrant les sorties furtives et improvisées de Jean XXIII hors des murs du Vatican.
Fai qualche giro in più in modo che ubriachiamo i gendarmi che non capiscono dove siamo.
On le voit bien, les médias audiovisuels du Vatican se mobilisent pour suivre les canonisations qui suscitent un intérêt planétaire. Car si des centaines de milliers de personnes sont attendues à Rome pour le week-end du 27 avril, des millions d'autres personnes ne pourront pas faire le déplacement jusqu'à la ville éternelle. Eh bien, elles pourront virtuellement traverser la colonnade du Bernin, entrer sur la place Saint-Pierre, prier avec le pape François, approcher du parvis de la basilique. Elles pourront le faire en restant chez elles, bien installées dans leur fauteuil ou en se rendant dans une salle de cinéma. C'est le défi lancé par le Centre de télévision du Vatican qui a choisi de s'associer à Eutelsat pour retransmettre la célébration en direct. Les images seront tournées en haute définition par le Centre de télévision du Vatican et afin d'assurer une couverture mondiale à cet événement, Eutelsat coordonnera la redistribution immédiate du signal sur 9 de ses satellites du jamais vu, y compris pour un mondial ou des JO. Par ailleurs, en collaboration avec les groupes Sky et Sony, le Centre de télévision du Vatican diffusera la cérémonie en 3D gratuitement dans 500 salles de cinéma à travers le monde, notamment à Cracovie et à Rome. Les nouvelles technologies permettront par ailleurs d'archiver des images parfaitement limpides. Un effort sans précédent. Écoutez Renato Farina, administrateur délégué d'Eutelsat Italie.
Pour cet événement très important pour le Vatican, c'est une page historique pour Eutelsat. Pour la première fois, après l'acquisition de l'opérateur Satmex, on a 34 satellites et avec ces 34 satellites, on couvre globalement le monde. Et pour nous, c'est la première fois qu'avec notre flotte de satellites, on a une transmission globale. Et je suis très heureux de faire ça pour la première fois pour un événement comme ça important pour le Vatican.
Renato Farina, administrateur délégué d'Eutelsat Italie, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne Massimiliano Menichetti. Pour la deuxième fois depuis le début de son pontificat il y a un an, le pape François a rencontré ce mardi l'ensemble des chefs de dicastère de la curie romaine, une vingtaine au total. La rencontre, qui a duré environ 2h30, portait sur les réflexions et les réactions suscitées dans les différents dicastères par l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium et ses applications possibles. La réunion précédente avec les chefs de dicastère avait eu lieu le 10 septembre dernier. Jean-Baptiste Cocagne.
En septembre dernier, aucune information n'avait filtré sur le contenu des discussions. Le pape François avait avant tout voulu écouter ses plus proches collaborateurs. Cette fois, le bureau de presse du Saint-Siège a été plus explicite. Le Saint-Père, a-t-on expliqué, souhaitait voir de quelle manière son exhortation apostolique, publiée en novembre dernier, pouvait avoir un impact sur le travail de la curie romaine. Une exhortation, Evangelii Gaudium, considérée par la plupart des analystes comme le programme de ce pontificat. Un texte dans lequel le pape François évoque de nombreuses pistes pour réformer l'Église, et notamment son gouvernement central, davantage de collégialité et de décentralisation. Des dossiers pourraient être ainsi traités au niveau des conférences épiscopales, sans remonter jusqu'à Rome. On sait que les réformes lancées par le souverain pontife suscitent des attentes, mais aussi des inquiétudes et des crispations. Le pape y réfléchit depuis plusieurs mois, avec l'aide du conseil des 8 cardinaux. Le chantier le plus important étant la refonte de la constitution apostolique Pastor Bonus qui régit actuellement l'organisation de la curie. Or, des hypothèses et des rumeurs circulent quant à la fusion ou quant à la disparition de certains dicastères, en particulier des conseils pontificaux, entretenant les spéculations. Jusqu'ici, en matière de nomination ou de mutation au sein de la curie, les changements restent limités. 7 des 12 présidents de conseils pontificaux n'ont toujours pas été reconduits dans leurs fonctions.
Ce mercredi, à l'audience générale, le pape François recevra en cadeau une bicyclette très particulière. Elle lui sera offerte par 3 jeunes autistes à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à ce syndrome, célébrée le 2 avril. Cette bicyclette est un tandem unique en son genre, réalisé par des autistes. On l'a surnommée le vélo des étreintes. En effet, le conducteur enlace le passager assis devant lui. Cette bicyclette est plus sûre et peut être utilisée par des handicapés. Le Saint-Père en recevra un exemplaire entièrement blanc. L'autisme est une réalité de plus en plus présente dans le monde. Ce trouble du développement touche désormais une personne sur 150 à des degrés divers. Dans certains pays comme les États-Unis, ce type de handicap connaît une explosion sans précédent. En moyenne, un enfant sur 68 est atteint. Caritas Europe a dénoncé le coût humain insupportable de la crise sur le vieux continent. Dans un rapport accablant rendu public il y a quelques jours, l'ONG pointe du doigt les politiques d'austérité imposées par Bruxelles, qui sont, selon elle, les grandes responsables de cette désagrégation sociale. Elle demande au gouvernement d'accepter d'en reconnaître l'échec et de trouver des alternatives. Caritas, qui s'est intéressée en priorité aux 7 pays européens les plus touchés par la crise, dit être submergée par l'effondrement européen. Cyprien Viette.
Montée de la pauvreté et des inégalités, dégradation des niveaux de vie, chômage, violence, malnutrition, baisse de la santé, de la scolarité. Selon l'étude, la crise est loin d'être terminée puisqu'un nombre croissant de citoyens fait face à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Un quart de la population de l'Union européenne est même touchée par ce phénomène. La grande pauvreté, elle, atteint désormais plus de 10% de la population. Toutes les barrières de protection ont sauté. Les salariés, quand ils travaillent, gagnent parfois si peu qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. Près de 500 000 salariés en Europe, selon les estimations de Caritas, ne peuvent plus se payer un logement. Les populations les plus vulnérables, les femmes, les émigrés non européens, les personnes sans formation, sont les premières atteintes. L'exclusion est devenue telle que l'ONG dit voir de plus en plus de personnes sorties totalement du système et ne comptant plus que sur elles-mêmes. Et alors que la crise se poursuit, l'attention s'est détournée des fautes évidentes des marchés financiers et des banques centrales censées les contrôler et s'est tournée vers les erreurs supposées des gouvernements. La principale préoccupation parmi les dirigeants a été d'éviter la faillite des banques, considérées comme des piliers du système économique. Or, pour Caritas, c'est justement le système bancaire qu'il faudrait réformer. Une chose est sûre, la politique mettant l'accent prioritaire sur l'austérité n'a pas marché en Europe. Une alternative doit être d'urgence adoptée.
Solidarité et subsidiarité, tels devraient être pour le Vatican les principes de base de l'économie. Le cardinal Turkson, président du conseil pontifical Justice et Paix, l'a redit lundi dans une intervention à l'université Saint-Thomas de Houston. Aux États-Unis. Sa conférence était consacrée à la relation entre éthique et économie. S'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église, le cardinal a plaidé en faveur de la protection de la dignité humaine, de la promotion du bien commun et de la fraternité. Autant de critères dont le système économique devrait tenir compte. Les usagers, a-t-il martelé, sont des personnes, pas des objets ou de simples consommateurs. Autres points essentiels, la dimension communautaire de la société, la dignité du travail humain, le développement intégral des travailleurs. Pour le cardinal Turkson, il faut rechercher un profit salutaire, respectueux de l'environnement culturel et naturel, et garantir une distribution équitable des biens. Quant aux chrétiens, ils ne peuvent pas séparer le monde des affaires de leur vie de foi. Ils doivent au contraire s'efforcer de transformer la société à partir des valeurs chrétiennes. Nous donnons à présent la parole au recteur du séminaire du Patriarcat latin de Jérusalem. Les gens, nous a-t-il dit, ne comprennent pas l'utilité des nombreuses visites de John Kerry au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain tente de sauver les négociations de paix israélo-palestinienne mises à mal par le refus d'Israël ce week-end de libérer comme prévu un 4e contingent de prisonniers palestiniens. Sur le terrain, les populations assistent impuissantes à ces allers-retours diplomatiques. Écoutez le père Jamel Kader, recteur du séminaire du Patriarcat latin de Jérusalem.
John Kerry est venu plusieurs fois et depuis 9 mois, 8 mois, il est en train de quitter les négociations entre Palestiniens et Israéliens, mais nous ne voyons pas de résultats. Ce que M. Kerry voudrait maintenant, c'est de poursuivre les négociations pour une autre période. Ce que nous voyons, c'est faire des négociations pour faire des négociations, sans but. Nous ne voyons pas de changement, nous ne voyons pas de perspective pour la paix. Et nous ne voyons pas pourquoi M. Kerry continue dans cette voie où on ne voit pas le but de ces négociations.
Mais comment alors on pourrait expliquer qu'il s'obstine quand même à vouloir sauver ces négociations?
J'ai peur qu'il s'obstine pour sauver sa réputation, qu'il veut faire quelque chose. Mais le vrai problème, ce n'est pas M. Kerry. Ce n'est pas la volonté américaine d'arriver à une solution. C'est le manque de volonté politique de la part d'Israël de reconnaître un État palestinien, de reconnaître les Palestiniens comme un peuple avec des droits nationaux. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est la colonisation des territoires palestiniens, imposer l'occupation militaire et c'est imposer la volonté de continuer l'occupation. Alors, le plan que Kerry a apporté il y a quelques semaines, c'est de reformuler l'occupation et non pas de mettre fin à l'occupation. Alors, il voudrait faire quelque chose. L'administration américaine a voulu continuer les négociations, mais nous, les Palestiniens, nous avons fait des négociations pour plus de 17 ans, mais sans résultat. Le résultat, l'unique résultat, c'est un résultat négatif. C'est la colonisation des territoires palestiniens.
Et donc on voit bien qu'il y a, on pourrait dire, un fossé qui se creuse entre ce qui se passe d'un côté entre les politiciens et ce que vous vivez sur le terrain.
C'est ça la négociation pour Israël, c'est faire des négociations, donner l'impression de parler avec les Palestiniens. Mais en fait, c'est l'occupation qui continue avec force, surtout avec la démolition des maisons des Palestiniens. C'est une affaire de chaque jour. Avec la colonisation, avec le mur qui continue et avec des mesures de restriction sur le peuple palestinien. Et voilà pourquoi les Palestiniens ne croient pas à la paix, comme ils voient sur le terrain des faits tout à fait opposés à une volonté de paix.
Et justement, vous, sur le terrain, comment vous vivez cette situation ?
Sur le terrain, nous voyons que le gouvernement israélien de Netanyahou n'a pas une volonté politique, ou bien on arrive à une solution où les Palestiniens auront un État viable et indépendant, où prochainement les Palestiniens verront que ce n'est plus possible, alors ils choisiront la solution d'un seul État. Je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec cette solution, mais si nous voulons un État palestinien avec la présence de plus de 600 000 colons israéliens avec le mur, ce n'est plus possible d'avoir un État viable et indépendant. Et alors peut-être un jour, prochainement, les Palestiniens vont demander non pas un État indépendant, mais leurs droits civils. Alors là, dans ce cas, ce ne sera plus un problème d'occupation, mais un problème de droits civils et peut-être une situation d'apartheid entre Palestiniens et Israéliens.
Et pour terminer, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou avez-vous un appel à lancer ?
Ce n'est pas un appel, c'est plutôt l'espoir que nous portons, nous les Palestiniens et surtout nous les chrétiens. Nous avons cette mission de porter, de ravivier un peu l'espoir, surtout chez les jeunes, parce que sans espoir, nous ne pouvons pas continuer. C'est pourquoi nous continuons toujours à travailler pour une paix juste pour tous. Nous continuons à travailler pour mettre fin à l'occupation et comme ça, tous, Israéliens, Palestiniens, vont vivre en paix. Nous continuerons dans cette voie non violente pour une juste solution. C'est notre vocation en tant que chrétiens ici en Terre Sainte.
Le père Jamel Kader, recteur du séminaire du Patriarcat latin de Jérusalem, interrogé par Audrey Radondi. Caracas accepterait qu'un représentant du Vatican assiste en tant qu'observateur au dialogue annoncé entre les autorités, l'opposition et des représentants étudiants pour tenter de sortir de presque 2 mois de crise politique. Lundi, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a confirmé à la télévision qu'il pourrait s'agir du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, qui était nonce apostolique à Caracas et qui bénéficie d'une forte autorité morale. Antonino Gallofaro.
Riche État pétrolier, le Venezuela est confronté à une crise économique sans précédent, ayant porté l'inflation à plus de 57% sur les 12 derniers mois. Depuis le 4 février, le Venezuela est secoué par des manifestations étudiantes contre l'insécurité qui se sont ensuite propagées à tout le pays, relayées par l'opposition et élargies à une contestation plus générale de la gestion du pays. Le principe de la présence d'un témoin international attestant de la bonne foi des parties censées renouer le dialogue avait déjà été accepté jeudi dernier par le président Nicolas Maduro même si ce dernier s'était montré sceptique quant aux chances du cardinal Parolin d'obtenir des résultats. Pas question cependant de faire appel à une médiation pontificale proprement dite, mais une plus grande implication de l'Église semble désormais envisagée. En attendant, une organisation vénézuélienne de défense des droits de l'homme a remis au nonce apostolique actuel à Caracas, Mgr Giordano, un rapport sur les abus signalés depuis le début des manifestations, un rapport qui fait état de tortures, d'arrestations arbitraires et de répressions systématiques. L'organisation a demandé au nonce de faire parvenir ce rapport au Vatican.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.